RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. La poésie, musique de l'âme, eh bien, c'est le thème aujourd'hui de l'émission, préparée en partenariat avec le mensuel Panorama. Alors la poésie, eh bien, ne laisse pas indifférent. Elle agace parfois les cartésiens, elle nourrit les contemplatifs, elle réunit plus qu'on ne croit les uns et les autres, laissant entrevoir ce qui fait le cœur de l'homme. Expression sensible de la vie intérieure, la poésie peut tout aussi bien être pétrie d'émerveillement que de colère aussi, de joie, pourquoi pas, comme de deuil aussi, ou de mille autres sentiments encore. Et si la poésie était tout simplement la musique de l'âme, c'est ce dont nous allons parler avec mes invités. François-Xavier Maigre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Panorama, un habitué de l'antenne RCF, quand on vous entend régulièrement sur l'antenne. Vous êtes poète, auteur d'un premier recueil, Dans la poigne du vent, paru aux éditions Bruno Doucet, auteur aussi d'un reportage chez Rougerie, un petit éditeur de grand talent, installé depuis 1948 en Limousin, et ça c'est paru dans Panorama.
Un grand petit éditeur.
Un grand petit éditeur. Stéphane Bataillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, journaliste et poète, décidément. Vous avez publié un recueil, Les Terres Rares, toujours aux éditions Bruno Doucet, Belle Maison, qui soutient de nombreux poètes contemporains. Et puis vous tenez, depuis janvier 2005, un blog poétique qui compte pas moins de 266 pages, soit près de 3000 textes poétiques ou non. www.stéphanebataillon.com, tout le monde pourra aller découvrir. Sylvie Torel, bonjour.
Bonjour, Christophe.
Vous êtes une artiste complète, écriture, peinture, architecture. Voilà de quoi occuper tout votre temps dans votre retraite du Gers. Enfin, je dis retraite, c'est un lieu retiré, en tout cas.
Oui, tout à fait. Oui.
Du Gers. Si l'architecture est une pierre angulaire pour votre vie, l'écriture, notamment l'écriture poétique, finit par devenir l'expression privilégiée de votre intériorité, ce que vous racontez dans Un bout de ciel, paru chez Mediapol. Et puis, vous aussi, vous avez un site, www.st-sylvitorel.fr. La poésie, musique de l'âme, c'est le thème du jour de Grand Angle et c'est tout de suite sur RCF.
Grand Angle, RCF, en partenariat avec Bayer Press.
François-Xavier Maigre, la poésie, c'est beaucoup de choses. C'est aussi un objet, un livre. C'est quelque chose qu'on peut prendre en main. Vous avez rendu visite à un imprimeur de poésie, les éditions Rougerie. Ça, c'est le reportage, hein,
ouais,
publié dans Panorama.
Racontez-nous. C'est intéressant que vous parliez d'imprimeur parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart du temps, le métier d'impression et d'édition sont dissociés. Et d'ailleurs, on voit jamais les imprimeurs qui sont des usines, parfois même délocalisées dans des pays étrangers. Et Rougerie, en fait, incarne une tradition qui est en voie de disparition. C'est-à-dire, il a une conception totale de son métier. Il découvre les talents. Il les fait émerger, il participe à la naissance du livre, et ensuite il réalise l'objet physique. Et c'est ce que je trouve très beau, en fait, cette maison qui est née sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale pour porter une voix humaniste, engagée, spirituelle parfois, a traversé toutes les époques, toutes les crises, et aujourd'hui vit encore grâce au fils de René Rougerie, Olivier, qui fait vivre la flamme de son père. Et voilà, dans cette grange au fin fond du Limousin, Olivier Rougerie fabrique des livres comme au XVIIIe siècle sur des presses au plomb.
Oui, c'est vraiment une technique ancestrale.
On est vraiment.
Pourquoi il passe pas à des techniques plus modernes? C'est vraiment, il y a quelque chose.
Parce
oui,
que
de
y a,
l'ordre du concret dans ces techniques.
Ouais, mais il y a quelque chose de la beauté du geste, du temps qu'il faut pour que naisse la poésie. Et Rougerie est convaincu que l'objet charnel du livre, voilà, moi ça m'a beaucoup touché de le voir sortir le livre de la presse et vérifier, sentir, palper le grain de la page pour que les caractères soient suffisamment ancrés dans la, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de, un peu comme le boulanger qui se lève à 5h du matin pour faire son pain, qui utilise encore un four à bois. Il est convaincu que le plaisir de la lecture passe aussi par le plaisir des yeux, des mains, des sens. Et dans une époque qui veut nous priver un peu de notre corps en nous faisant croire que tout est instantané, que tout est accessible en un clic, lire un livre qui est publié par un éditeur comme Rougerie, c'est un acte un peu subversif.
Sachant que les pages sont pas massicotées, donc il faut les ouvrir soi-même. Bah
c'est, moi, je trouve ça sublime. C'est-à-dire que quand là, j'en ai reçu deux récemment. J'ai voulu le dernier Gilles Baudry, notamment. Peut-être qu'on en reparlera. J'ai voulu le lire, et en fait, il m'a fallu un bon quart d'heure pour massicoter les pages avec un coupe-papier. Déjà, le coupe-papier aujourd'hui, à l'époque du mail, qui utilise encore un coupe-papier, quoi. Donc déjà, il faut retrouver un coupe-papier, et ensuite, il faut patiemment. Il y a un côté un peu atelier d'art plastique. Il faut bien décacheter chaque page. Et en même temps, c'est ça qui est beau, quoi. Je veux dire, c'est comme quand on part à la pêche au coquillage. Il faut aller chercher. La beauté et le plaisir ne vient pas tout de suite. Il y a un chemin pour y parvenir. Et moi, je trouve ça très noble et très beau. Et aujourd'hui, c'est peut-être un exercice dont on a besoin.
Ça peut être aussi un couteau de cuisine ou un coupe-papier. Enfin bref,
c'est un cutter, un cran d'arrêt. Enfin, tout est
voilà quelque chose de très concret. Son canif pour ouvrir les pages, pour ouvrir la poésie. Ça veut dire que c'est pas exagéré de dire qu'il y a une sorte de poésie du geste aussi.
Bah en fait, pour moi, la poésie, c'est pas quelque chose dans les idées. On n'est pas dans la désincarnation. C'est un art total, en fait, qui doit, selon les mots de René Guicadou, qui doit embrasser la vie entière. Et à partir de là, y a un vrai plaisir à rentrer dans un autre rapport au temps. Et je pense que le livre en particulier, moi je crois pas du tout à la poésie sur des supports numériques. Alors Stéphane va sûrement
Stéphane va sûrement me
contredire, mais j'aime infiniment être face à des livres qui soient différents les uns des autres, qui parlent à mes sens. Et j'ai certains ouvrages qui datent de mon enfance, de mon adolescence, des livres qui m'ont marqué, des Jules Verne, mes premiers recueils de poèmes, ma première édition des Fleurs du Mal que j'ai eue, celle de 1921, 100 ans après la mort de Baudelaire. Et j'aime ces livres, j'aime les traces d'humidité qui sont venues avec le temps, j'aime les annotations maladroites que j'ai pu faire à 14 ans. Et voilà, pour moi, ça fait partie de ma vie, ce sont des marqueurs importants, et je crois que ces objets nous accompagnent au cours des jours, et c'est important d'avoir des balises comme ça.
Alors Stéphane Bataillon, alors on va en venir justement au support de la poésie. Bon, j'imagine que si tous les poètes pouvaient être publiés, ils seraient heureux, mais les éditeurs peut-être un petit peu moins, c'est plus difficile. Et encore, je soulignais le travail de Bruno Doucet, hein, qui est attentif vraiment à tous ceux qui peuvent écrire de la poésie. Mais vous, sur le site internet que vous animez, sur votre site, il y a beaucoup de poésie qui passe. Alors
oui,
dématérialisée, mais en même temps beaucoup plus accessible. Comment, quel est le pari? Alors cette présence sur Internet.
Le pari, contrairement, je ne vais pas du tout contredire François-Xavier, parce que moi-même je suis un amoureux compulsif des livres, du papier, de la presse magazine. Vraiment chez moi, ma femme me le reproche presque. On est submergé de livres partout. Il n'y a plus aucune place.
Ça dit quelque chose.
Pour moi, quand tout à l'heure on parlait d'actes subversifs, je place l'acte poétique, qui est effectivement un acte total, mais qui passe par la parole, et par la parole avant tout. Pour moi, par la parole avant tout, par l'usage des mots, non pas au niveau du support, mais au niveau vraiment de cet acte d'écrire, et aussi en tant que lecteur de poésie contemporaine notamment, par l'acte de recevoir. Je pense qu'on est dans une période que Jacques Ellul nommait la période de la parole humiliée. C'est qu'on a tellement de paroles toute la journée qui nous empile, qui nous raconte quelque chose du monde, un récit du monde sans fin au niveau de l'espace, sans fin au niveau du temps, en ne laissant presque plus de place au silence, que nous nous retrouvons presque engloutis par trop de paroles. Et la poésie, pour moi, par quelque canal qu'elle se diffuse, que ce soit par Internet ou dans un recueil ou dans un magazine, est là pour faire témoignage d'un geste qui est l'extraction de la parole de cette fonction utilitariste, et de retrouver dans le poème une force, une énergie qui nous redonne cette petite étincelle, qui nous fait prendre conscience et de nous, presque un en dedans. On parle beaucoup d'au-delà de la poésie, de sa fonction un peu transcendantale. Moi, je pense que c'est beaucoup une reprise en main à nous-mêmes. Ça nous aide aussi à entrer en nous-mêmes, mais aussi à se reconnecter au monde dans ce qu'il a de plus infime, de plus simple, et que souvent, ce récit du monde médiatique ne traite même pas, ne parle même pas.
Il manque certainement beaucoup de poésie dans tout le flot d'informations et de communication qu'on peut avoir. En même temps, vous le disiez aussi, l'important c'est de lire de la poésie ou de l'expression poétique. On va pouvoir voir un peu tout ça. Ça veut dire aussi que par le biais justement des nouvelles technologies, on peut toucher, on peut partager la poésie de façon beaucoup plus large.
Personnellement, je trouve qu'Internet, l'usage d'Internet, hein, encore une fois, ce n'est qu'un moyen, est un outil formidable pour transmettre la poésie. Pour la transmettre rapidement, un poème est souvent relativement court, donc correspond tout à fait à ces moments entre deux métros, de consultation de ses emails, de son smartphone, tout ça. Voilà, la poésie, c'est une autre manière, dans sa journée, de se dire, tiens, mon rapport au monde, ici, ce rapport au monde et aux paroles du monde, il est un tout petit peu différent. Peut-être que juste après la consultation du SMS ou d'un site de poésie, on va peut-être s'arrêter, faire une pause qu'on n'aurait pas faite sans poésie.
Alors méfiez-vous d'Internet, vous pouvez même y rencontrer de la poésie. Sylvie Torel, vous avez une expression poétique très forte qu'on retrouve sur votre site et qu'on retrouve notamment dans votre livre « Un bout de ciel » paru chez Mediapol, un journal spirituel au fil des saisons, on va en parler. Vous êtes au carrefour aussi de ce dont on parle, c'est-à-dire la matière, puisque vous êtes aussi artiste peintre, architecte, donc c'est du costaud, c'est du solide, c'est pas que des mots. Et en même temps, de cette expression, j'allais dire très, très volatile, que peut être la poésie, les mots, l'écriture.
Oui, je pense que l'acte de d'écrire de la poésie s'inscrit dans la matière, justement, dans la matière des mots, dans la matière intérieure, dans la matière du cosmos, enfin, est très, effectivement, très, je dirais, la poésie est très matérialiste. Et dans cette matière, il y a cet au-delà dont vous parliez, qui est cet invisible, cet indicible, je dirais, qui est perceptible autant dans la peinture, effectivement, dans l'architecture. Il y a toujours cette part d'invisible, je ne saurais la nommer, mais vous voyez de qui je veux parler, de toujours le même, de Dieu. Effectivement, je pense qu'il y a une immanence dans chaque chose qui est très matérialiste, très, très sensuelle, très... On peut le capter cela dans tout ce qui est mystique aussi. C'est toujours très charnel, que ce soit la poésie mystique est toujours très. Donc, je pense qu'il y a effectivement dans la poésie ces deux perceptions à la fois très très matérielles,
très concrètes.
Très concrètes. Effectivement, le livre. Moi, je suis une génération plutôt. De celle dont parlait François-Xavier, c'est-à-dire du livre. Hein. Je suis une amoureuse du livre
aussi.
Du papier. Du papier, oui, de tout ce qui... Et puis surtout, je pense, dans l'acte même d'écrire de la poésie, je crois beaucoup à cette façon que l'on va avoir de sculpter dans la matière des mots, dans la matière du dire. Je pense qu'on cisèle, que le poète va ciseler son dire, quoi.
Les mots sont une matière.
Oui,
vous,
voilà, c'est ça. On reste toujours dans cette matière et à la fois dans cette. Je pense qu'il y a l'immanence et la transcendance là qui se fusionne et qui il y a pas que quelque chose
demander, de... ce que je voulais vous demander puisque vous racontez aussi hein, que Dieu j'allais dire vous l'avez rencontré non c'est peut-être
oui,
lui qui est venu vous rencontrer
oui,
je ne sais
oui.
pas comment il faut oui, dire racontez-nous un petit peu cet épisode
oui,
qui
une...
fait rentrer dans cette dimension
oui,
un
tout
peu
à fait, oui.
Spirituelle transcendante
oui en 2001 donc j'ai rencontré un petit monastère dans le sud-est de la France un monastère orthodoxe qui venait d'être créé. Et donc là, j'ai vécu vraiment une conversion très forte. Un jour des vêpres de la Dormition de la Mère de Dieu. Donc, et là, à partir de là, bon, j'avais déjà un parcours spirituel très, très fort. Mais je dirais que là, j'ai rencontré vraiment quelque chose qui m'a... une étincelle, quoi. Et donc, à partir de là, donc j'ai écrit ce journal. Le journal, justement, ce journal-là est préludé par cette conversion, ce renversement, ce, qui peut se rapprocher aussi de ce que vous disiez, hein, cette espèce de renverser les choses, c'est ça qui se passe à ce moment-là. Je crois, on devient...
Ça devient un journal d'une âme si le titre n'était pas déjà
pris.
Voilà,
tout à fait, oui. Donc ce journal est né de cela, et puis bon, il a fait son chemin. Hein. Là, ce sont des morceaux choisis du journal. Donc,
ce qui est intéressant, c'est que vous le ponctuez par les saisons, les quatre saisons.
C'est ça.
Ça veut dire aussi que la vie, comme la poésie peut-être, est faite à la fois d'hiver et de printemps, de soleil et de pluie.
Ce sont les saisons intérieures, disons. Hein. C'est presque très symbolique. Hein. Bon, je vis à la campagne aussi. Les quatre saisons sont très marquées toujours à la campagne. Et j'ai ce rapport très fort avec la nature. Et je pense qu'effectivement... si l'âme doit devenir musicienne, effectivement, c'est au contact de toutes ces choses de la vie, effectivement, la nature, tout ce qui fait la vie de chacun. Effectivement, on peut avoir ce signe d'un coup qui nous est...
En tout cas, être attentif aux saisons et aux saisons de la vie, de l'existence et de l'âme, peut-être, les saisons intérieures.
Oui.
On va pas seulement parler de poésie, on va aussi en écouter. Alors, je sais pas qui commence, peut-être Stéphane, François-Xavier, Stéphane, avec un extrait, soit de vous-même, soit d'un texte de vous-même, soit un autre qui vous plaît. Je vous avais demandé de préparer un petit peu.
Alors oui, je voulais vous lire un court poème en prose de Paul Deroux. Qui dit bien ce qu'on est en train de, d'une autre manière, ce qu'on est en train d'explorer ici. Le texte s'appelle Une copie. Parfois le jour comme une copie du jour, et nos vies comme des copies de la vie. Quand il ne reste que très peu de choses à faire, apparemment très peu, regardez une fenêtre dans les vitres d'une autre fenêtre, et le ciel si gris et si terne sur les toits. Et regardez encore, comme si tu allais découvrir le tout petit détail qui montrerait que la feuille a glissé, que c'est l'original qui se trouve maintenant devant toi.
Une tripride qui a trois fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour,
le raton laveur,
une madame, un tel, un citron, un pain, un grand rayon de soleil.
De front,
un pantalon,
une porte avec son paillasson,
un monsieur décoré de la Légion d'honneur,
le raton laveur,
un sculpteur qui sculpte les Napoléons, la fleur qu'on appelle souci,
deux amoureux sur un grand lit,
un carnaval de Nice,
une chaise,
trois dindons, un ecclésiastique,
un furon, une guêpe, un rat flottant,
une douzaine d'huîtres,
une écurie de course,
un fils indigne,
le père dominicain,
trois sauterelles, un strapontin, une fille de joie,
trois ou quatre oncles cypriens,
le raton laveur,
une mater dolorosa de papa gâteau, trois rossignols de père de sabot, cinq dentistes, un homme du monde,
un homme du monde,
une femme du monde,
une femme du monde,
un gouvernement de cabinet,
deux petits Suisses,
deux petits Suisses,
un grand pardon,
un grand pardon,
une vache à sa bavarde,
pas de bon sang,
un monsieur bien mis, un cerf-volant,
un régime de banane, une fourmi, une expédition coloniale,
un cordon sanitaire, trois cordons ombilicaux, un chien du commissaire, un jour de gloire,
ma bandage hernière,
un vendredi soir,
une chaisière,
un œuf de poule,
un vieux de la guerre, trois veuves de guerre,
un François Ier de Nicolas II,
trois Henri III,
le raton laveur,
le raton laveur,
un Père Noël,
ouais, ouais,
deux sœurs latines,
ding ding,
trois dimensions,
sion, sion,
mille et une nuits, sept merveilles du monde, quatre points cardinaux,
un, deux, trois,
quatre heures précises, douze apôtres,
quarante-cinq ans de bons et loyaux services, deux ans de prison, six ou sept péchés capitaux, trois mousquetaires, vingt mille lieues sous les mers, trente-deux positions de mille ans avant Jésus-Christ,
cinq après chaque repas, 40 minutes d'entracte,
une seconde d'inattention. Naturellement, le raton laveur.
Eh oui, le raton laveur, quand les frères Jacques s'emparent de l'inventaire de Prévert, la poésie. Musique de l'âme, on en parle avec François-Xavier Maigre, Stéphane Bataillon et Sylvie Torel. François-Xavier Maigre, dans votre reportage chez Rougerie, hein, Olivier Rougerie, l'héritier et puis celui qui tient c'est les éditions Rougerie, vous expliquez que dans les auteurs, et Dieu sait s'il en connaît de nombreux, il y en a qui ont la foi ou d'autres pas, mais des auteurs qui sont toujours des mystiques sans Dieu au moins. Ça veut dire que la poésie, elle est de cet ordre-là, de l'ordre du mystique, en tout cas, ou en tout cas de l'intériorité.
La parole, elle a toujours partie liée avec le sacré, je pense, dans toutes les traditions. Et moi, ça m'a toujours frappé, à force de grenouiller un peu dans le milieu de la poésie. On rencontre souvent Stéphane, je pense que c'est partagera.
Oui, vous êtes chez le même éditeur, vous travaillez dans la même entreprise de presse, donc vous vous connaissez.
On se connaît un petit peu, on s'est croisés. Voilà, on n'est pas
les
totalement.
Auditeurs ne seront pas tout à fait surpris.
Voilà, mais en fait, moi j'ai toujours, ça m'a toujours frappé. En fait, on rencontre souvent des gens d'une certaine génération. Très marqué par un côté libertaire, révolutionnaire, un peu, revenu de tout. Donc, a priori, pas très branché foi, quoi. Faut pas trop leur parler de christianisme et tout ça. Mais en fait, quand on lit leurs textes, quand on parle avec eux, c'est des gens qui sont souvent des mystiques sans Dieu et qui ont souvent une forte prédisposition à ressentir beaucoup de choses sur les hommes, sur la beauté de l'invisible, sur, moi, et moi d'ailleurs, je dis souvent, c'est pas une provocation, je le pense vraiment. Je me sens beaucoup plus proche d'un auteur libertaire, athée, qui est habité par ce qu'il écrit et qui va me révéler quelque chose, que par un auteur qui met sa catholicité en avant, mais en fait où il n'y a pas d'inspiration. Et c'est souvent un peu le grand malaise que j'ai vis-à-vis de la poésie. Enfin, je reçois souvent des livres, on me dit voilà, ça c'est un poète catholique, il a fait un recueil catholique. Limite, parfois il y a l'imprimatur d'un évêque. Mais c'est pas ça la poésie. La poésie, c'est pas un catéchisme avec des rimes. C'est d'abord, vous m'arrêtez si je dis
voilà
une bêtise,
mais c'est, une belle définition,
pour moi, c'est d'abord une voix humaine reconnaissable. Chacun a sa propre empreinte vocale et c'est un timbre en fait. Moi, j'aime reconnaître une langue particulière. Chacun a son timbre. Stéphane, il écrit pas pareil que Sylvie. Sylvie, elle écrit encore différemment que moi et c'est vrai pour tout le monde. Et j'aime cette singularité qu'il y a chez chacun et qui moi, fait écho à quelque chose en moi.
Stéphane,
je pense que effectivement, la poésie c'est vraiment une insurrection intime. C'est une liberté incroyable et c'est une liberté qui peut faire peur aussi parce que c'est vraiment on se livre complètement dans le poème et on n'a pas le paravent d'une histoire, d'une narration. On est vraiment au plus proche, au risque de se tromper, au risque de se perdre parfois, d'une intensité de vie comme ça. Et c'est vrai que moi aussi, il y a ce rapport au sacré, à la parole. On dit souvent la poésie, c'est le plus haut degré du langage. Je pense que c'est déjà l'acte fondateur premier. C'est notre vraie particularité d'être humain.
Ouais, une dimension très spirituelle, mais en même temps qui n'est pas déconnectée, désincarnée, puisque notamment sur votre site, puisque vous publiez des posts très très régulièrement, forcément vous êtes aussi en prise directe avec l'actualité, avec ce que vit le monde.
En prise directe, mais la poésie est peut-être une sorte de mise à distance ou de d'angle différent de la manière dont on s'empare du monde et dont on reçoit aussi ce que le monde nous apporte. Là, j'ai fait par exemple un texte sur Nuit debout, qui n'est pas un texte ni philosophique
dans l'actualité.
J'ai essayé de dire voilà cette beauté, ce que je trouve beau dans ce mouvement par exemple, c'est cette forme de se permettre de rêver encore à une utopie, même si on ne sait pas très bien ce qu'elle donne ou où elle va, mais alors que tout nous dit qu'on n'a plus le droit de rêver.
Sauf les poètes peut-être.
Et les poètes, je pense, participent à
tout
ça.
Tout le monde peut partager cette dimension poétique.
Et c'est peut-être là où on est, entre guillemets, prophétique. C'est-à-dire que c'est pas du tout en se mettant au-dessus des autres. C'est par contre en se permettant, en se mettant en jeu, Et on met en jeu cette parole-là qui nous est très propre, ce que François-Xavier disait, est unique, de rallier tout le monde.
Mais ça veut dire que, du coup, le poète, enfin celui qui veut s'exprimer par la poésie, se retrouve, j'allais dire, comme une éponge, en tout cas beaucoup plus sensible à ce qui peut se passer, non ?
Oui, mais ça, je pense que chaque artiste, c'est un peu ce cas-là. On prend des choses du monde et puis on essaye d'y participer aussi. Hein. La poésie, moi, je sais qu'il suit d'un tempérament. J'aime le court, j'aime les formes très brèves. C'est une manière aussi de mettre mon petit caillou.
Voilà. Une insurrection poétique en quelques mots. Sylvie Dorel, vous
voulez
réagir?
Je suis d'accord avec François-Xavier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confiner, effectivement, je pense, les choses dans un christianisme fermé sur des... Non, je pense que même les grands poètes mystiques, de toutes les façons chrétiens, étaient aussi des gens subversifs et des révolutionnaires.
Charles Péguy.
Voilà, Charles Péguy, exactement. Et puis également les des poètes qui sont effectivement qui ne sont pas chrétiens pratiquants ou je pense à Yves Bonnefoy, des gens comme Philippe Jacoté, tous ces gens ont une dimension vraiment mystique,
spirituelle
à travers la nature ou à travers d'autres chemins évidemment.
Chemin de la nature est important parce qu'on voit que vous le traversez, donc je l'ai dit tout à l'heure, à travers les différentes saisons, mais c'est pas les petites fleurs bleues quoi.
Non, pas du tout.
La nature nous renvoie.
On arrive
à un monde
là,
peut-être qui peut
à une contemplation
être
beaucoup
violent.
Plus forte, oui effectivement, mais pourquoi pas aussi une petite fleur bleue, hein.
Ça n'exclut pas,
mais effectivement je pense que il faut sortir effectivement, je pense, le christianisme de cette idée. Le christianisme est quelque chose de révolutionnaire, de subversif. Je crois que on l'oublie et que c'est le Christ n'était pas quelqu'un de qui allait sur le droit chemin, je crois. Hein.
Une foi subversive et l'insurrection politique.
Oui, voilà, je pense.
Si je vous entends bien, les uns et les autres. Oui. Dans votre livre, vous faites souvent référence, Sylvie Torel, à écrire, je reprends juste un passage, écrire la nuit, l'attente pour l'amour du seul fragment d'un poème écrit à la nuit, d'un soir d'hiver, crayon fin sur une feuille blanche pliée, abandonnée dans les plis d'un livre. Vous pouvez nous lire un extrait ?
Oui, bien sûr. Donc oui, vous faites allusion à donc ces entrées dans le journal qui sont écrire, musique,
lire parfois.
Ou à lire. Voilà, exactement. Donc là, je vais lire un extrait. Écrire. L'œil de page en page, recueil pur la nue beauté. Des ténèbres à la clarté, de la chair des silences, les mots à fleurs. Écrire. Avec l'encre d'eau et de sang mêlé qui coule de la blessure de son flanc blanc. Joie et douleur à la fois, plénitude de n'être rien que la voix solitaire exultant sa prière. Faire surgir l'arrière-monde des choses et leur présence silencieuse, le poème comme essence même de l'écriture, accueillir le souffle qui écrit sa parole en nous, accueillir l'infini du dire, tenir le fil de la parole pour ne pas se perdre, musique et mots en partage, laisser les flux librement s'entremêler les uns aux autres, s'unir pour attiser cette lente alchimie des matières jusqu'à obtenir d'un or fin, puis recueillir ce dépôt précieux, nectar de poésie.
Grand angle, Christophe Hénin.
Merci Sylvie Torel pour ce petit extrait de votre livre paru chez Mediapol, Un bout de ciel, journal spirituel au fil des saisons. On le sent dans votre écriture qui est très libre, qui est pas forcément en vers. En vers, long, court, Stéphane Bataillon, finalement, la poésie c'est la liberté d'écriture d'abord, ou il faut s'imposer des règles?
Alors c'est la liberté à partir de contraintes. Sauf que ces contraintes sont un peu au choix du poète. Ou moi, j'interviens beaucoup en milieu scolaire et je suis frappé du fait de la manière dont les enfants, et souvent les enfants en difficulté avec la langue française, s'emparent de cette règle qui ne leur coûte rien, mais qui leur est plutôt qui est pour eux une occasion de tester quelque chose avec les mots, d'entrer en amitié avec les mots. Tout à l'heure, Sylvie, vous parliez de manipuler le mot. Il y a un pote qui s'appelle Christophe Tarkos qui avait inventé un mot pour ça, qui disait c'est la patmo. et la patte des mots qu'on comprend, qu'on manipule, et comment, à partir de cette contrainte-là, qui peut être une contrainte de forme, de versification, ou d'utilisation d'un mot particulier, comme dans le haïku japonais, où on utilise un mot de saison dans chaque poème, relatif à une saison particulière, eh bien, on en fait quelque chose qui va, avec de l'exercice, résonner avec ce qu'on est intimement. Et c'est cette rencontre, finalement, du monde extérieur, représenté par la contrainte, et de l'univers intime que les enfants souvent vont chercher au plus profond d'eux, qui fait que le poème souvent est réussi. Souvent quand on lit des poèmes d'enfants, on se dit oh, mais c'est formidable, on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi sincère.
On est trop adulte.
Peut-être.
Oui. Sylvie Dorel. Venir à l'enfance, effectivement, de l'homme, oui. C'est un peu ça qui nous est demandé, enfin, qui nous est donné plutôt que demandé, donné en tant que poète, oui. Revenir à cette enfance, oui.
Ça veut dire, François-Xavier Maigre, que la poésie, ça peut être un jeu.
La vie est un jeu. Moi, je vois pas la poésie, en tout cas, comme quelque chose de plombant. Enfin, on a parfois, il y a une image d'Épinal qui colle un peu au basque du poète
sérieux,
qui serait quelqu'un de
malheureux,
de renfrogné, de solitaire. Enfin, c'est une posture un peu romantique. Hein. Le poète maudit, en fait. Mais, enfin. Déjà, j'ai rencontré des poètes qui étaient très joyeux, très épicuriens. Moi, ceux qui m'ont marqué, par exemple, Charles Bukowski avait une certaine idée de la vie. Jean-Claude Pirotte, c'est des gens voilà qui ont une vie un peu cabossée et tout ça. Mais il y a une certaine espièglerie aussi. C'est pas forcément. On rigole. Moi, je rigole beaucoup quand je lis la poésie. Quand on lit Il est minuit depuis toujours, qui est un très grand livre de Jean-Claude Pirotte, qui moi m'a beaucoup marqué. Il y a à la fois une grande douleur, il y a le sentiment de l'absurdité de certaines choses de la vie, et en même temps il y a une jouissance du langage, de la beauté des visages, de la beauté des paysages, de l'expérience de la vie. Voilà, c'est tout est condensé à travers la parole. Et je pense pas qu'il faut, enfin, faut casser cette image du poète comme quelqu'un de grave. Le poète, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui change la couche de sa fille, qui va au travail, qui le soir met ses charentaises devant la télé et qui parfois écrit un poème. C'est ça un poète. C'est pas quelqu'un qui vit avec un costume élimé en haut d'une mansarde parisienne.
En même temps, on voudrait que ces poètes soient lus, et on encourage les auditeurs. En tout cas, l'émission va peut-être donner goût à la poésie. Mais en même temps, le poète, Stéphane Bataillon, ce qu'il exprime, il a besoin de l'exprimer d'abord, ou il cherche un lecteur ?
Alors, je crois que pour mon cas, c'est avant tout un besoin de l'exprimer. Mais comme Sylvie en parlait tout à l'heure sur le travail de la matière, je pense que c'est certes exprimer quelque chose, mais on pourrait l'exprimer par bien d'autres moyens que la poésie. C'est ensuite tout ce travail sur ces mots qui sont sortis.
Ça serait pas plus simple parfois, autrement que
bien sûr,
par la poésie.
Et c'est plus simple pour avoir cette exigence du poème et le laisser à lire. Moi, je le donne à lire assez rapidement puisque je le publie
sur le site.
Avec relativement peu de travail par rapport à la manière dont il a surgi. Et la publication en recueil, il y aura tout un travail encore de avec mon éditeur et puis à l'intérieur, voilà, de d'enlever les mots, de concentrer au maximum l'énergie de ce qu'on donne. Voilà, c'est certes plus simple par d'autres moyens, mais la poésie est aussi comme polir, comme un artisan polit un peu une pierre précieuse ou quand on sculpte quelque chose, d'arriver à quelque chose de beau et donc que l'on peut transmettre à l'autre, quitte à entrer en résonance avec lui. C'est ça, quand on est lecteur de poésie, moi je suis avec comme nous tous ici, mais je pense que j'adore lire de la poésie et entrer en résonance ou pas parfois. François-Xavier, par exemple, dont j'apprécie beaucoup la poésie, parfois il y a des choses qui me rappellent vraiment une émotion et d'autres fois c'est vraiment une nouveauté, c'est une nouvelle façon d'envisager la vie. Ça revient à ces petites étincelles dont je parlais tout à l'heure. Bah, quand il y a plusieurs petites étincelles en lisant, en écrivant, ça crépite et c'est le feu un peu. C'est le
bon.
Le
eh ben alors on va tester ça, François-Xavier, un extrait de vos poèmes même, puisque vous avez le recueil qui est là dans la poigne du vent. Allez, tant pis, c'est un moment de lire ce qu'on a écrit soi-même. petite exigence.
Mes racines ont des yeux que rien ne muselle. Ni le cri des nuages livrés à eux-mêmes, ni les hordes de ruelles au relent de débâcle, ni les crues de pénombre jaillissant des bas-fonds, ni les bonimenteurs, ni les étoiles d'année, ni les oiseaux de mal augure à l'échancrure des toits rougis, ni les épidémies de solstice dont il m'a fallu guérir pour ne pas oublier. Des mots qui parlent à la nuit et la rassurent. Des yeux pour prendre l'aube par la main, des yeux phares de ville où s'épavent tant de regards. Des yeux flammes de cendre pour les jours essoufflés, des yeux tendus aux âmes à bout de lueur. Des yeux qui disent l'origine mieux que les lèvres et les palabres. Des yeux simplement pour s'envisager, se tenir chaud.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, faut qu'il fait le délicat, faut qu'il songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois il a chancelle, l'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda.
La Rose et le Réséda, c'est La Tordue, le groupe La Tordue, qui chantait Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. La poésie, eh bien, c'est peut-être la musique de l'âme. On en parle avec François-Xavier Maigre, Stéphane Bataillon et Sylvie Torel. Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. François-Xavier Maigre, dans Panorama, vous, la revue mensuelle de spiritualité, vous insistez souvent sur, il y a toujours un espace sur la poésie, il y a des poésies, je ne vais pas dire à toutes les pages, mais poésie, spiritualité, prière, tout ça, c'est des choses qui ont à voir ensemble.
La Bible est un long poème, il y a des pages entières de la Bible, que ce soit les psaumes, le Cantique des Cantiques, l'Apocalypse de Jean, où on est dans une langue poétique, c'est une évidence. Et je pense que l'expression poétique, à travers la liberté qu'elle permet, à travers le rapport à l'invisible du langage, est un moyen d'accès privilégié aux choses cachées, aux choses de l'âme. Et ça me semble assez évident, en fait, qu'il y a un lien très naturel entre la mystique et la poésie. Et d'ailleurs, il y a énormément de moines qui publient de la poésie, qui en écrivent. Et Gabriel Ringlet, il y a quelques années, avait publié un très beau livre, L'effacement de Dieu, où il faisait un petit peu le tour des monastères où on pouvait rencontrer des moines poètes d'aujourd'hui pour montrer comment, à travers leur travail d'écriture, se révélait la présence d'un Dieu discret dans le monde, mais présent pour peu qu'on se rende disponible à sa lumière.
Et parmi les sept poètes qu'il citait, enfin il y avait six poètes et un architecte, celui qui a construit une abbaye au Québec. Preuve peut-être, Sylvie Torel, que l'espace, l'architecture a quelque chose à voir aussi avec la poésie, ou c'est exagéré de rapprocher les deux expressions artistiques?
C'est peut-être un peu exagéré, mais l'architecture construit et la poésie construit l'homme, finalement, construit l'âme, construit. C'est un lien, oui, je pense.
Il y a une architecture du poème, en tout cas.
Oui, absolument, oui, bien sûr, une architecture.
Aimé Césaire disait écrire un poème et bâtir une ville, c'est un peu la même chose.
Oui, tout à fait, oui. Et on se construit soi-même aussi, de toute façon, dans notre expérience spirituelle et dans notre expérience de poète, je pense effectivement qu'on se construit.
Dans votre livre, vous insistez vraiment, ça revient très souvent, écrire. Écrire, ça devient un impératif dans
une
existence.
Ça l'a toujours été. Effectivement, donc peut-être j'y reviens avec insistance parce que j'ai fait tout autre chose et que justement dans les coulisses un peu secrètes de ma vie, effectivement, l'écriture était toujours là et très 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 présente. Et donc là, c'est un peu comme une, ces entrées, c'est un peu comme une faille dans la matière du livre en lui-même. Donc effectivement, écrire, musique, tout ce qui pour moi rejoint cette étincelle de spirituel.
Oui, c'est la même inspiration qui vous conduit parfois à la toile pour peindre, parfois au stylo pour écrire.
Non, pas du tout. Par contre, je me sers beaucoup de signes et d'écriture non faite pour être lue, si je puis dire, dans mes toiles. J'utilise beaucoup de signes calligraphiques qui n'ont pas de sens, en fait, pour rejoindre un peu l'idée de l'indicible qui ne s'écrit pas, qui est hors sens et qui à la fois fait sens par d'autres voies. Donc oui, effectivement, ça j'utilise l'écriture, mais d'une autre façon. Mais l'un n'interfère pas dans...
C'est deux expressions.
Oui, c'est deux expressions différentes. Mais effectivement, dans la peinture, il y a aussi l'écriture. Mais l'écriture, justement, qui ne se lit pas.
Une écriture masquée.
Voilà.
Stéphane Bataillon, quand on entend donc la chanson, enfin le texte d'Aragon, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ça fait référence évidemment, enfin quand on est sur RCF, d'autant plus à la foi chrétienne ou à la foi en Dieu. Ça peut être aussi, vous en parliez tout à l'heure, un peu de l'utopie. Ça peut être la foi en l'homme, la foi en une dimension plus grande.
Oui, oui, mais d'ailleurs la dimension sacrée, au-delà de l'appartenance à une croyance, à une religion, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a cette dimension spirituelle, sacrée, cette aspiration-là.
Qu'il faut réveiller peut-être.
Qu'il faut réveiller, mais alors ça ne se fait pas de façon brutale, c'est pas un réveil brutal au milieu de la nuit.
Un poème qui vous
un poème
claque
pour
à
moi,
la figure.
Ouais, c'est, voilà, alors ça peut arriver. C'est en tout cas une joie. C'est une joie. Alors, ça arrive peut-être pas au premier poème ou au second, mais ça va arriver. C'est aussi l'incertitude et ce doute permanent. Mais
comment conseiller une découverte de la poésie? Parce que c'est vrai qu'un recueil de poèmes, ça peut être un peu aride. Enfin, je suis désolé de dire ça à des
Bien
poètes,
sûr,
mais
évidemment.
Mais c'est sûr que on l'a dit, il y a un jeu de construction qui peut ne pas être toujours accessible au départ. Et puis, en fait,
mais ouais, l'aridité n'est pas la même pour les gens. Je pense qu'il faut trouver son poète. Le poète qui va nous faire entrer dans la poésie.
Cherchez votre poète.
Il est
François-Xavier. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas plus aride que la parole qu'on reçoit à longueur de journée. C'est pas plus aride qu'une dépêche AFP, qu'une annonce commerciale dans un supermarché. C'est pas plus aride qu'un message sur un répondeur. En fait, je trouve que on est assailli de toutes sortes de registres de paroles qui nous éloignent qui nous déconnectent de notre nature profonde, de notre identité. Et au contraire, je trouve que dans la poésie, Alors peut-être pas dans toutes les poésies, mais il y a quelque chose de très respectueux de notre rythme naturel. Et je pense qu'en fait, il y a une image un peu fausse qui entoure la poésie comme quelque chose d'abscon. Mais en fait, je pense que typiquement nous tous qui sommes là autour de cette table, on a des livres qui sont, enfin quand on les, enfin qui sont pas du tout effrayants et qui sont facilement lisibles. Et je pense qu'il faut peut-être, enfin voilà, il faut encourager.
Peut-être
les
que le message commercial va vraiment à la rencontre, j'allais dire, du client, alors que un poème a peut-être plus de difficultés à aller à la rencontre
de son lecteur. Là, c'est l'agressivité. Je pense qu'on est dans l'agressivité de la société. C'est un peu comme l'amour. Le poème respecte l'homme. Donc c'est respectueux, en même temps c'est chaleureux, ça peut être exigeant aussi.
Et il y a un danger en fait, et les gens aiment bien être rassurés, et la poésie c'est aussi, on marche sur un fil, et en fait on est dans une époque où on calcule tous les risques, on essaye de d'avoir le zéro problème, et dans la poésie c'est aussi la reconnaissance de notre fragilité, de notre finitude, et je pense que cette acceptation d'une faille peut faire peur aussi. Et de fait, quand on s'engage dans la lecture d'un recueil de poèmes, d'un livre de poésie, on s'embarque dans un voyage et on ne sait pas très bien où ça va nous mener. Et ça peut faire peur.
Alors faites-nous voyager avec James Noël, qui a écrit dans son poème.
Qui est un jeune poète haïtien que j'aime beaucoup, qui a publié ce livre, Des points chauffés à blanc, chez Bruno Doucet. Pardon, c'est encore le même éditeur, mais ils sont plus très nombreux aujourd'hui à faire un travail de qualité. Rétroviseur de l'enfance. Tout petit, je faisais des petits avions en papier que je lâchais sur les toits au hasard. Un ange déchu s'en servait une fois pour regagner son patelin de nuages. Mon ami Pierrot s'en souvient bien, les yeux tout ronds. Déjà tout petit, je faisais des petits bateaux, des petites caravelles piégées, conçues sans quilles et sans cœur pour basculer Christophe Colomb et ses frères conquistadors et sa conquête très coquette reine Isabelle. Croyez-vous vraiment qu'elle était catholique ? Déjà tout petit, je faisais des avions et des bateaux avec mes cahiers d'écolier. Ces petits bateaux-là voyageaient loin, très loin dans les larmes de maman qui me prenait par la peau du cou, me plaçait face contre mur. Il ne faut jamais faire ça de tes cahiers, plus jamais.
Voilà, des points chauffés à blanc, c'est James Noël. Merci pour cette lecture. Sylvie Torel, quand on entend ces mots-là, quand on sent aussi qu'il y a un lecteur à rencontrer, est-ce que le lecteur s'adresse à l'auteur, parfois, au peintre, au poète, à l'écrivain?
S'adresse.
Est-ce que vous sentez, est-ce que vous attendez ce retour? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui se crée dans une forme d'échange?
Je pense pas au départ.
Ou mystérieux, parce qu'il n'y a pas de retour.
Pas pour soi, justement, parce que l'écriture, finalement, le dire est quelque chose qui s'inscrit dans la catholicité, je dirais, dans l'universel, dans le sens de l'universel. Mais je pense que c'est important, effectivement, que l'auteur se connecte, enfin, à un lecteur, oui. Mmh.
Est-ce que vous écrivez en pensant au lecteur ?
Oui, je peux m'adresser à un lecteur, mais disons que je pense que ma poésie est avant tout un dialogue avec Dieu, si je puis dire, donc avec l'ensemble
avec l'universel
de l'humanité, effectivement. Mmh. Voilà, je pense que oui, effectivement. Je pense que l'homme doit être touché par quelque chose, et s'il est vraiment touché par quelque chose et que son âme vibre et que son cœur vibre, c'est qu'il a rencontré une dimension autre, bon, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler après tout ce qu'on veut, du moment que effectivement on se rende compte qu'on a touché là quelque chose de sublime et à la beauté du
En tout cas, il est très important de l'exprimer, Stéphane Bataillon, depuis 2005, hein, je le répète, parce que je suis impressionné quand même de la régularité de votre écriture sur votre site. Depuis 2005, vous exprimez, j'allais dire quotidiennement, mais quasiment, très très régulièrement, tout ce que vous voulez partager au monde. Est-ce qu'il est aussi urgent de vous lire, en tout cas de lire de la poésie ?
Il est urgent de lire de la poésie pour toutes les raisons qu'on a essayé d'esquisser aujourd'hui. Il est aussi, c'est peut-être un des moyens les plus directs de se reconnecter dans quelque chose dont on manque cruellement, c'est-à-dire un rapport à une réalité qui est là peut-être une réalité sensible d'émotion de la vraie vie. Qu'effectivement, toutes ces paroles déversées ne font finalement que nous couper des choses. On nous dit par exemple depuis 30 ans que c'est le désespoir, que c'est la crise, qu'il y a la peur. Alors, elle peut exister, mais est-ce que pour chacun de nous, c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y a que ça? Et je pense que la poésie, elle témoigne de ces événements faibles qui font aussi la vie. Et qui se passe, c'est pour ça que ça parle beaucoup de nature, qui se joue dans chaque chose du monde.
Je me doute un peu de la réponse, mais alors du coup, la poésie, elle n'est pas du côté de l'utilité, de l'efficacité, mais peut-être d'une certaine gratuité.
Ça, évidemment, la poésie est gratuite. Financièrement, la poésie est peut-être un
pas à payer quand même.
Non, bien sûr, il faut trouver des recueils, bien sûr, et soutenir les éditeurs, effectivement, qui sont de moins en moins nombreux. Mais je veux dire que la poésie ne rapporte pas d'argent. C'est vraiment.
Alors, qu'est-ce qu'elle apporte?
Elle apporte cette plénitude, cette joie, cette communion aussi entre les hommes, de manière immédiate, à condition d'oser franchir la porte, d'oser ouvrir le livre et de lire le poème.
Urgence poétique, François-Xavier Maille, vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est quoi cette urgence? Pourquoi plus aujourd'hui qu'hier?
Parce qu'on est dans une époque bruyante et qu'on a besoin de retrouver le sens du mot juste. Et rare, ce qui nous amène aux terres rares de Stéphane Bataillon, parce que moi je trouve que c'est un livre qui m'a beaucoup touché.
Le recueil de Stéphane
Bataillon. Ouais, et typiquement il est fait d'une écriture économe, et à une époque où on se répand tellement partout sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans l'info continue, et voilà, d'avoir cette parole mesurée qui nous dit quelque chose d'essentiel, voilà, moi ça me touche beaucoup, et c'est un encouragement à faire aussi le vide en soi, à émonder tout ce qui n'est pas essentiel à notre bonheur. Et la parole est ce ferment qui nous rapproche des autres, et je trouve ça très important qu'on puisse se reconnecter à une parole de vie.
Eh ben, on va écouter Stéphane Bataillon, un petit extrait. Sachant que vous aimez les versions courtes, donc
oui,
ça sera un petit extrait.
Donc ça raconte un peu la naissance de notre fils. L'air, aujourd'hui plus léger. Peut-être que le muret tout au fond du jardin. Peut-être qu'une lumière, peut-être qu'une position, ou alors l'impression d'inspirer différent.
Merci, c'était effectivement court. Peut-être un autre extrait, allons-y.
Pas de peur qui remonte, pas vraiment. Ou bien seulement l'entrée dans la forêt et le corbeau qui parle. Et l'heure tourne.
Vous voyez que la poésie, c'est accessible et c'est pour tous, et que ça nous donne un petit air de respiration. Sylvie Torel, vous qui vivez, vous avez la chance vous êtes venu jusqu'à Paris pour participer à l'émission. Vous avez la chance de vivre dans un espace très très vert, très naturel. Justement, cette nature, elle pousse juste à ce que nous disions tout à l'heure. C'est aussi cette urgence poétique de goûter la vie.
Oui. Tout à fait, oui. Et dans la nature, on retrouve le silence et à la fois les bruits, d'autres bruits que les bruits urbains. Mais c'est, je dirais, pour compléter ce que disait François-Xavier, je pense que il faut retrouver le silence en soi pour que les mots s'y inscrivent.
Alors on peut entendre la voix de la poésie.
Voilà, exactement.
Eh bien, merci à tous les trois pour ce partage poésie. Qu'est-ce qu'on peut aussi... Vous avez évoqué la poésie chez Rougerie. Il y a des auteurs aussi chez Rougerie qui sont à découvrir absolument. Vous avez parlé de...
Il y a de très grands auteurs vivants comme Gilles Baudry, qui est moine à Landévennec dans le Finistère, moine bénédictin, et qui a forgé au fil des années une œuvre très très belle, très dense, d'une poésie humaniste, fraternel, spirituel, enfin tout ce qu'on aime, et lisible sans aucun filtre. Quelqu'un qui n'a jamais lu un recueil peut se plonger dans la poésie de Gilles Baudry avec beaucoup de bonheur.
Voilà, alors Gilles Baudry, un autre conseil peut-être, Sylvie Torel, d'un autre poète que vous pouvez nous conseiller?
François Cassin-Génat Trévedi, qui est moine aussi.
Décidément, les moines ont souvent aussi l'âme poétique.
Ils ont le temps aussi.
Ils ont le temps, voilà, peut-être. Voilà. Publié chez Ad Solem.
Oui.
Stéphane Bataillon.
Moi, je conseillerais Guy de Vic, qui est vraiment le poète qui, moi, m'a fait entrer en poésie avec un recueil Possible Futur, des poésies très courtes, voilà, qui m'a, moi, donné accès à ce monde-là.
Voilà, Gilvic à découvrir aussi. Alors, je rappelle, bien simplement, pour prolonger l'émission, merci à tous les trois, mais je rappelle Panorama, qu'il faut lire, hein, avec ce reportage sur Rougerie. Les Terres Rares, c'est le recueil de Stéphane Bataillon, publié aux éditions Doucet, de même que le recueil de François-Xavier Maigre, Dans la poigne du vent. Et puis, Un bout de ciel, c'est le livre de Sylvie Torel, publié aux éditions Mediapol. Je rappelle vos sites aussi, stéphanebataillon.com, c'est ça, voilà. Et puis Sylvie Torel, c'est st-sylvietorel.fr. Et puis aussi, il ne faudra pas louper, le temps de le dire, l'émission de Stéphanie Gallet, L'Urgence Poétique, ça sera mercredi 27 avril à 9h, à ne pas louper. Un petit extrait de poésie, juste après, merci à Pierre-Henri Paget et à Florence de Saint-Preux.
C'est toujours James Noël, un petit poème qui résume tout. La beauté est celle qui palpite dans l'instant, celle qu'on saisit par tressaillement ou par erreur.
Merci à tous les trois. Merci.